l'expression qu'on va y apprendre, à Toladot et à Lali. C'est-à-dire ces engendrements de Jacob, tous les autres frères, Lobaou et Labisruto chez Yosef, ne sont venus au monde, si vous voulez, que par le mérite ou pour le mérite de Jacob. Ou Bishmilo, et pour lui. Klum, Alak Yaakov et Tel Laban, Jacob n'est allé chez Laban, et là, que Bishmil Rachel, que pour Rachel. Vous avez compris le raisonnement. Puisque toute l'histoire de Jacob, c'était pour Rachel. Et par conséquent, tous les autres Toladot sont Tafel par rapport à Yosef qui est Ikar. Vous voyez jusque-là ? Bon. Et alors là, je vous dirai quand même une parenthèse, même si ça me prend beaucoup de temps, ça vaut la peine, parce qu'ici il y a une difficulté dans la formule du Midrash, je la reprends. Klum, Alak, Yaakov et Tel Laban, Jacob n'est jamais allé chez Laban que, et là, Bishvil Yosef, Rachel, que pour Rachel. Mais quand il est parti, chez Laban, il ne savait pas qu'il s'agissait de Rachel. Alors, on va revenir un peu en arrière. Et après, je continue. D'accord. Mais justement, c'est le texte où il l'a reconnu que je vais vous analyser. On l'a fait un des cours il y a 2 ans, peut-être, mais un moment important, ça vaut la peine. On pourrait dire que c'est a posteriori que nous savons que c'était pour Rachel. C'est a posteriori que Jacob a aimé Rachel et pas Léa. Mais l'argument du Midrash est très important. Ça veut dire, en fin de compte, si on voit la perspective de continuation de l'histoire des patriarches, en fin de compte, Jacob, son engendrement, c'était Joseph. Les autres sont venus en plus. Oui, mais Joseph d'abord. Parce qu'il est le premier-né de Rachel. Et d'ailleurs, la fonction de Joseph, Binyamin est relié à Joseph. Non, c'est suffisamment clair. Et donc, dans cette première approche, dans cette première lecture, les autres tribus et les fonctions qu'ils véhiculent semblent être, on dit tafel en français, pas accessoires, c'est trop accusé. Non, même pas. Disons, pas secondaire, mais second. Oui, il ne faut pas donner un terme trop péjoratif quand même, mais je dirais donc pas secondaire, mais second par rapport à Joseph, qui aurait là une indication de prééminence évidente a priori. Et par conséquent, ça explique pourquoi Jacob se voit chez Joseph plus que chez les autres. Et ce qui nous sera dit très en détail par le deuxième midrash. Le premier midrash prend le mot de Toladot dans le sens des engendrements. Et quel est donc son argument ? Jacob n'est allé chez Laban, et là, Bishvil Rachel, que pour Rachel. Nous verrons d'ailleurs la suite. Alors, revenons un peu en arrière, je vais lire très rapidement ce passage. Oui, très bien. Alors, c'est le chapitre 29. Le chapitre 29, au verset. Depuis le début. Prenez le début. Bon, alors, depuis le premier verset du chapitre 29, vous avez la page ? Quelqu'un va la dire à vous ? 134. 134. Alors, on va dire ensemble. Vaïssa ya akor varlav, veyele khatsa benekele. Vous y êtes ? Chapitre 29, Kaftet, premier verset. C'est-à-dire, lorsque Jacob est parti du pays de Canaan, c'est le texte précédent, dans son voyage, il a été arrêté par la vision de l'échelle qu'il a eue, par la révélation de l'échelle qu'il a eue à Bethel, et après le contrat d'alliance qu'il y a eu à son réveil, alors la Torah nous dit qu'il a repris son chemin et il est allé. Et Bayeler, il alla, Artsa Benekedem, en direction du pays des Benekedem. C'est une expression qui fait irruption dans le texte, je vais vous traduire à deux niveaux. Benekedem, première traduction, ceux qui habitent à l'Orient. Benekedem. Mais l'Orient s'appelle l'Orient comme en Kedem. Kedem signifie l'Orient en dérivé, d'un sens plus fondamental de Kedem, qui veut dire ce qu'il y avait avant. Vous voyez, donc Jacob va se ressourcer dans l'antérieur, si j'ose dire. Et ça se passe en Orient. Et par ça, donner Kedem. Voilà, il vit, Vehine Be'er Basadeh. Et voici un puits dans le champ. Vehine Sham, Shelosha Edretson. Et voilà que là-bas, il y avait trois troupeaux. Gopsi Malea, qui était accroupi les deux sur le puits. Qui, Minabe, Rahi, car de ce puits-là, Yashkua Adarim, devait s'abreuver les troupeaux. Vehine Alpiaber. Et la pierre était grande sur la bouche du puits, littéralement. Il y a ici une indication très importante. C'est-à-dire, on est censé savoir qu'est-ce que c'est la pierre. Si le texte avait dit une pierre grande était bouchée le puits, ça, c'est le récit. Fait. Mais, et la pierre grande sur. Ça veut dire qu'il y avait un puits où s'abreuvaient des troupeaux. On est donc dans. Où Jacob va, pas n'importe où, dans cette région qui est le reste de l'antérieur. Et puis il y a un puits où on peut s'abreuver. Mais la pierre est là, on ne peut pas s'abreuver. Ça va jusque-là ? Venescu, Shama, Kola, Adarim. Et se rassemblent là-bas tous les troupeaux. Les Galalou et Taeven, et ils faisaient rouler la pierre. Meral Piaber, de l'ouverture du puits. Vishku et Tatson, et ils abreuvaient le troupeau. Il ramenait la pierre en son endroit sur l'ouverture du puits. Ici, entre autres, l'expression importante, c'est Kola Adarim. Il fallait que tous les troupeaux soient là pour que tous les bergers à la fois aient la force d'enlever la pierre. Donc, c'est là où on s'abreuvait. On s'abreuvait que quand on était tous là, alors on pouvait enlever la pierre. Mais quand on n'était pas tous là, il fallait remettre la pierre. C'est clair, c'est ça. Alors je continue. Alors on est venu à Jacob, et Jacob leur dit, Achai, Me'ainatem, mes frères, d'où êtes-vous ? Nous et ils disent, de Haran, Anachmi, mais Haran, Anachmi, nous sommes de Haran. Qu'est-ce que c'est Haran ? C'est précisément l'endroit d'où la famille d'Abraham va quitter définitivement la civilisation antérieure de Kasdim en tant qu'elle avait échoué, pour se diriger, commencer l'histoire de la famille des patriarches en Eretz Israël. Et c'est là-bas, dans cet endroit, que, à différents niveaux, il faut retourner chercher la suite des engendrements, ressourcement dans l'intérieur. Ça va jusque-là ? Alors, c'est la première lecture, et Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous ? Et ils disent, de Haran. Donc, Vayomer Lahem, et il leur dit, Hayedartem et Laban ben Nahor, est-ce que vous connaissez, avez-vous connu Laban, fils de Nahor ? Vayomru, Yadarnu, et ils dirent, nous l'avons connu, nous le connaissons. Vayomer Lahem, et il leur dit, Ashalom Lo, est-ce que la paix est avec lui ? Est-ce qu'il y a la paix chez lui ? Vayomru, Shalom, ils ont dit, paix. Et voici, Vehine, Rachel, Ba, Imatson. Rachel, ben Nahor. Attendez, il me manque une page. Rachel Bito Bara Imatsu. Et voici que Rachel, sa fille, venait avec l'autre. Alors voilà la première lecture simple. Alors, ce à quoi il faut être sensible, c'est que d'abord c'est un dialogue extrêmement concis, mais quel est l'essentiel du message qui passe entre eux ? Vous voyez, Jacob, qui retourne au pays d'où Abraham était parti pour ne pas revenir, et puis la première chose qu'il dit en voyant des bergers, il dit « mes frères ». Et puis il s'enquiert d'un problème de paix. Il leur demande d'abord d'où ils sont. Alors, indépendamment de cette lecture, qui est la lecture chaque du texte, on raconte l'événement. Je vais vous le lire un peu à un autre niveau. Si vous aimez. Et Jacob leur dit « Achai ». Premièrement, ce qu'il leur a dit, c'est « mes frères ». Et c'est très étrange de trouver ce terme de « mes frères » dans la bouche de Jacob, qui vient d'avoir eu l'expérience d'une fraternité de l'échec, son frère Ésaü. Okay. Alors, Ésaü, d'où ça vient qu'Ésaü est ce qu'il est ? Ça vient justement de là-bas. De là-bas, on ne sait pas qui sort.
dans la chambre de Teddy. Vous rappelez, Bon, est-ce qu'il y a là une naïveté? On va voir qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et puis, mais à une antenne. Alors là, ceux qui ont suivi les cours sur la Kabbalah, vous allez lire plus vite, hein, mais je vous expliquerai pour tout le monde. Et la lecture pshat, la traduction pshat de Me'ayin à Tel, ça veut dire d'où êtes-vous. Me'ayin, c'est l'interrogation, mais d'où. Mais si j'enlève le point d'interrogation, c'est une affirmation. Me'ayin à Tel, vous venez du néant. Aïn, ça veut dire le néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il fait une déclaration théologique. Hein, mes frères, commence un sermon. Et puis il leur dit, mais à une athée, vous venez du néant. Et puis, voyons-vous, dire, non, non. Eux ont dit, mais Haran, nous sommes de Haran. De cet endroit-là, que j'ai déjà suffisamment caractérisé, okay, c'est-à-dire le point où il y a à la fois l'échec de la civilisation antérieure, mais où sont restés les traces, les restes de ce qui a fait que la famille d'Abraham est la famille d'Abraham, et à partir de là, commencer l'histoire d'Israël. Alors, j'ai pas un nous sommes de Haran. Or, Haran en hébreu, ça veut dire l'endroit de la colère. Vous connaissez l'expression de Haran? Alors, voilà, hein, à ce deuxième niveau de lecture, un dialogue extrêmement important. C'est vraiment un dialogue, ça dépasse là, mais enfin, disons, prenons-le à un niveau théologique. Les bergers se rencontrent. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, de l'histoire de bergers. De quelle tradition bergerique êtes-vous? Alors, Jacob dit, mes frères, bon. Alors, première déclaration, Me'ayin atem. Vous êtes créature, vous venez du néant. Et vous souvenez qu'on a appris très en détail que l'épreuve donnée à la créature, c'est la relation à l'autre créature. Vous vous rappelez de cela? Je reviens à l'analyse. En conséquence, nous sommes créés, le problème qu'il y a à résoudre, c'est de devenir frère. C'est bien juste là. Voilà son programme. Il dit, non, notre histoire s'explique tout à fait autrement. Nous venons d'une grande colère. À l'origine, il y a eu une colère. Alors le problème qu'il y a à résoudre, c'est d'exorciser la colère. Péché originel. Alors oui, deux programmes radicalement différents. Voilà comment l'hébreu parle, voilà qu'on a la ramène du rêve. Vous avez compris ce qui se passe derrière, okay? C'est clair? C'est l'affrontement de deux perceptions de la vocation d'Israël. La vocation d'Israël dite par Jacob, c'est deux mots, trois mots. Achai, Me'ayin, Batel. Ceux qui connaissent plus de textes, en particulier les Mishnayot, cette formule vous rappelle quelque chose, Me'ayin, Batel, Lanata, Oler. Alors il répond, non, nous venons de Haran. Alors, je décris un petit peu, mais vous l'avez déjà entendu par vous-même, il y a deux conceptions complètement différentes de la vocation d'Israël pour la rédemption du monde, pour le tikkun du monde. La première, à travers Jacob, c'est Al-Pi HaTorah, c'est, il faut résoudre le problème de la fraternité. La deuxième, qui est païenne, qui consiste à dire, nous devons exorciser magiquement la colère antérieure, la colère de l'origine. Vous voyez où ça va? C'est bien, justement. Alors Jacob va s'expliquer. Il dit, qu'est-ce que vous me parlez de Haran, la colère? Est-ce qu'il n'y a pas des restes de cette famille-là, d'Abraham? Vous n'avez jamais entendu parler de Laban, fils de Nahor, Nahor est le frère d'Abraham? Alors, oui, on a entendu parler. Laban. Alors, il continue. Vous suivez? Il continue. Ah, Shalom, là. Et quel est le problème de cette identité? C'est le problème du shalom. Okay? Vous voyez comment ça s'organise. Okay? Et je prends la rue. Pour lui, il y a shalom. Chez lui, il y a shalom. Et voilà qu'à ce moment-là, Rachel, Bito, Ba et Matsou. Voilà que Rachel vient avec le troupeau. C'est-à-dire que ce qui se cherche dans ces engendrements, on en a eu quelques analyses, mais je récapitule, quelques analyses partielles. On n'a jamais pu avoir vraiment le tableau général, mais enfin, je récapitule un peu pour notre sujet. Il se cherche finalement l'homme capable de fraternité et l'homme capable d'unifier en lui les valeurs qui font que la fraternité est construite. Première étape Abraham, deuxième étape Isaac, troisième étape Jacob. Et pour que les enfants d'Israël puissent être engendrés, on revient à notre midrash. Okay? Ça commence avec Rachel, on ne connaît pas la fille. Et alors il faut que Jacob ait son bat-zouk. Et comment il est défini dans ce contexte? une femme qui est capable de porter le message de la paix. Ça ne peut sortir que de la famille de d'où est sorti Abraham. Et vous les voyez encore isolés en ghetto, ceux qui sont restés à parmi les gens de la colère, si j'ose dire. Et voilà qu'il y a cette fille-là, Rachel. Alors, je reviens au Midrash. Lorsque Jacob est parti sur la vanne, c'est pour une Rachel. C'est le mot qu'elle a dit. C'est bon, c'est. Donc, il n'y a pas d'anachronisme dans le Midrash. Ça va jusque-là ? Alors, reprenons notre texte à nous maintenant, au chapitre 37, pour retrouver le Midrash dans les violations. Alors, le Midrash avait commencé pour dire, elle est tombée de Jacob, Yosef. Voici les engendrements de Jacob, c'est Joseph. Et il a dit, tous les autres sont seconds par rapport à Joseph, puisque Jacob n'est allé chez la vache que pour Rachel. Ça va jusque-là ? Deuxième dimension. Atoladot à la vie. Ces engendrements-là de Jacob, c'est-à-dire les autres frères, les frères de Joseph, Aïe, et Valtinot, Hatshenolad Yosef, attendez dans l'exil jusqu'à ce que soit né Joseph. Je continue dans le Midrash, ensuite j'élargirai un peu plus si c'est nécessaire. Adam ou dirtif, c'est cela qui est écrit au chapitre 30, verset 25. Vaïri, et il arriva, Asher Yaïda Rachel et Yosef. Quand Rachel a enfanté Joseph, alors la suite, c'est Jacob a dit à Laban, le temps est venu de mettre fin à mon exil, je rentre. Comme si Jacob n'était allé chez Laban que pour ramener Joseph avec. Alors, nous allons avoir dans ce Midrash une précision importante. En fait, entre-temps, les autres tribus sont nées, okay, et elles ont leur importance radicale, avec comme autre polarité Yehuda. J'espère avoir le temps aujourd'hui de parler du tableau complet, enfin des deux volets, ne se fût-ce que succinctement, au moment où nous sommes dans le premier, et tout est misé sur Joseph, si vous voulez, dans ce Midrash-là. Et là, on nous dit, les autres Tolabot, les autres engendrements de Jacob, attendaient la naissance de Joseph, puisqu'ils ne sont revenus en Eretz Israël que quand Joseph est né. Et comment est défini Joseph dans ce moment du Midrash? Vaïhi, Kaacher Yalla Rachel et Yosef. Lorsqu'il arriva, lorsque Rachel enfanta Joseph, qui vint chez Nolad, c'est un nom chez l'auto Rachar, on peut dire Sitnon chez l'auto Rachar, lorsque est né l'antagoniste de ce Rachar qui est Esaü, et là nous avons un court-circuit sur un autre thème, c'est que c'est la force de Joseph qui aura raison de ce que représente Esaü comme antagonisme à Jacob. Lorsqu'est né Yosef, c'est le signe de la fin de l'exil. Il est capable de mettre fin à la domination des Aïs sur Jacob. Ça va jusque-là ? Voyons-nous à Jacob, alors là, la suite du verset 25, du chapitre 30, Jacob dit à Laban, « Chaleche nive lecha el mekomi ularti. » Renvoie-moi, et j'irai vers mon endroit, vers ma terre. C'est-à-dire, c'est très précis, c'est quand Joseph est né que c'est le signe de la fin de l'exil. Donc le Midrash utilise ça comme ça. Tous les autolados n'ont attendu finalement que la naissance de Joseph. Quand Joseph ne naissait pas, ils étaient obligés d'être encore en attente dans l'église. Je vous ai simplement donné une explication qui me semble importante dans la forme du verset dans lequel la Torah nous dit que Jacob, ayant vu la naissance de Joseph, va prendre acte que c'est le temps de la fin de l'exil, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, il est obligé premièrement de demander la permission à Laban de partir. Ça, c'est un thème aussi que nous avons à toutes les fins d'exil. Okay. Étant donné qu'il y a un contrat de travail, et entre Jacob et Laban, c'est clair, c'est un contrat de travail. Okay. Un contrat de travail entre Israël et les nations, il faut donc prendre congé des nations. Je vous énumérerai très rapidement. À la sortie d'Égypte, nous avons le même scénario. Il faut que le pharaon consente pour qu'Israël puisse partir. Vous vous rappelez de cela ? Quand nous étudierons ce thème, nous verrons de nouveau que la finalité centrale, essentielle des plaies d'Égypte, c'était pour faire que le pharaon, en fin de compte, dise « Bon, allez-vous-en. » C'est faire jusque-là. Il va se raviser tout de suite après, mais reste trop tard. L'enfant est né. De la même manière, à la fin du deuxième exil, la possibilité de quitter l'exil a été donnée par Cyrus, qui était la puissance politique de ce temps. Et de la même manière de notre temps, il a fallu que la Providence suscite la Société des Nations pour enregistrer la déclaration de Balfour et invente l'ONU pour fonder l'État d'Israël. Oui, c'est arrivé. Ils se sont ravisés tout de suite après, c'est trop tard. C'est exactement comme chaque fois. Alors ça c'est la première lecture, prendre congé de Chalechemi, ça veut dire donne-moi congé. Okay. Toi-même, on peut trouver cela par exemple dans l'histoire de Moïse chez Jéthro. Parce que Moïse, qui avait passé 40 ans chez Jéthro, après la vision du buisson ardent, sait qu'il doit quitter Jéthro, chez lequel il s'était installé en attendant. Et au début, on ne sait pas que c'est en attendant. Okay. Et puis, pour revenir en Égypte, alors il doit prendre congé de Jéthro. Et un midrash sur le verset qui parle de l'installation de Moïse chez Jéthro dit que Jéthro lui a fait promettre un certain nombre de conditions, dont celle-là, qu'il ne pourra pas partir si Jéthro ne donne pas le feu vert. Mais c'est un thème pour lui-même qui est très important. Comment se fait-il qu'il fasse attendre, j'allais dire, le bon vouloir des nations du monde, maintenant à l'exil, mais vous avez compris l'importance du problème. La deuxième lecture me paraît aussi très significative. Chalechemi, pas seulement congé du mois, accompagne-moi pour me souhaiter bonne route, ok? Vahi, Béchalach Pharaon, soit disant, okay? Mais renvoie-moi. Regardez bien l'ordre. Renvoie-moi, alors je m'en irai. Vous avez remarqué comment la fin de l'exil est définie? C'est clair, c'est là. Bon, alors je referme la parenthèse. Le Midrash continue. Mi Mouridam le Mitzrayim. Qui les a fait descendre en Égypte, les autres tolados de Jacob? Yosef. Mi Mechalkelam. Qui les nourrit? Yosef. Hayam le Nikra et la Biskuto chez Yosef. La mer Rouge ne s'est ouverte que par le mérite de Joseph. Alors qu'est-ce que le Midrash raconte à ce propos? C'est que la mer ne pouvait pas s'ouvrir pour laisser les Hébreux finalement quitter l'Égypte au passage de la mer Rouge, et que c'est le mérite de Moïse d'avoir emporté les ossements de Joseph. Devant les ossements de Joseph, la mer s'est ouverte. Devant le cercueil de Joseph, la mer s'est ouverte. Et c'est ce qui est écrit dans un verset du psaume, si vous voulez prendre la référence, 77, le verset 17. D'ailleurs, c'est le verset 17 et 18 que je vais vous dire, si c'est pas 16 et 17. Oui, c'est le verset 16 et 17. Voilà ce que dit le verset. Galta Bizroar Amecha, tu as délivré à Bizroar par ta force, par ton bras, Amecha, ton peuple, Béné, Yaakov et Yosef, les enfants de Jacob et de Joseph. Vous voyez comment le peuple d'Israël est appelé dans ce verset d'Exode. Béné, Yaakov et Yosef. Verset suivant. Raou, Chamaïm, les eaux t'ont vu, Yalokim, Dieu. Raou, Chamaïm, les eaux t'ont vu, Yachilou, ils ont tremblé de peur, Afirgezou, et se sont émus, je ne sais pas, mais plus qu'émus, Terumot les habits. Ça veut dire ça. Ce dernier verset, c'est l'allusion au passage de la mer Rouge. Okay? Et comment est appelé le peuple d'Israël traversant la mer Rouge? Les enfants de Jacob et Joseph. Bon, je continue le Midrash. Amar Rabbi Yehuda le Rabbi Shimon. Bon, ça c'est déjà un autre sujet. Voilà donc pour la première source. C'est que, en fin de compte, l'explication est simple. Bien sûr que Jacob, tous ses enfants sont ses enfants. Mais son identité Jacob se voit plus dans Joseph que chez les autres. Parce que c'est pour Joseph qu'il a eu les autres, au premier niveau. C'est bien clair jusque-là? On va l'exprimer d'une manière simple. Joseph est le premier-né de Rachel, qui est la préférée de Jacob. Entendez bien, Jacob, j'ai pas dit Israël. Parce que Jacob, c'est la dimension Israël de la vocation de l'exil. Ça va jusque-là? Non. Alors, ça nous met tout de suite au bord du deuxième Midrash. La formule que je viens de dire, c'est que Jacob se voit dans Joseph, plus que dans les autres frères. Un peu anticipé au texte que je vais vous citer. Nous allons voir dans la deuxième partie de l'étude, si on a le temps, que à partir des patriarches, il y a deux vocations messianiques, toutes les deux légitimes, mais qui, lorsqu'elles n'arrivent pas à trouver leur point d'équilibre et d'harmonie, leur ordre de préséance, se combattent et se contrarient. Il y a dans l'identité d'Israël, une spécificité absolue. Il y a donc une tendance messianique de la spécificité absolue d'Israël à travers Juda et les frères de Joseph. Retenez l'expression « les frères de Joseph avec leur tête et Juda ». Alors que leur tendance de la messianité dans la relation à l'universel est représentée par Joseph. Vous devinez ce qui se passe dans son histoire, c'est on va quitter l'identité hébraïque, on va la garder clandestinement, on va se déguiser en égyptien, on va devenir le sauveur de l'Égypte, parce que c'est l'humanité d'Égypte. Comprenez cela. Et lorsque l'on considère ces deux stratégies, chacune pour elle-même, séparées l'une de l'autre, elles sont exclusives l'une de l'autre et contradictoires. Et leur conflit est en travail dans toute l'histoire d'Israël. Ce n'est qu'en fin de compte que ça va se mettre en place. Il y a d'abord la tentative Joseph et ensuite Judas. Nous devons reprendre tous ces problèmes-là. Et là, la dimension Jacob se voit plus dans Joseph que dans Judas. Je vous dirai très rapidement, et ça fait partie du procès que les frères de Joseph ont fait à Joseph, quelle est la motivation de cette décision de Judas et ses frères par rapport à Joseph de rompre avec ce rêve qui est permanent chez les patriarches. Parce que finalement, Jacob se voit dans les rêves de Joseph. Joseph rêve les rêves de Jacob. Jacob, berger chez Laban. Et au point qu'effectivement, Jacob, et on l'appellera Jacob, à ce moment-là de nouveau dans le texte, va, dès qu'il entend, eh bien, Joseph est en train de réussir ton rêve, son rêve, là-bas. Alors, il le rejoint purement et simplement, prend ses pénates, comme on dit, ses plâtres, donc, tchak, et puis il n'y a plus d'Arex Naham, l'Égypte. C'est Jacob. Par rapport à Israël, le même personnage, mais vous voyez cette ambivalence que nous vivons dans notre histoire. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que. Attendez, où j'étais dans la ligne juste avant. Oui, la motivation du procès que ses frères ont lui fait, c'est que Joseph, lui, ne savait pas ce que c'était que l'exil. C'est quand il est né que Jacob est parti avec ses enfants. Tandis que ses frères étaient adultes, ils ont fait le diagnostic de ce que c'est que l'exil, et que cette tentative à la Joseph de Jacob, berger de Laban, pour transfigurer la civilisation de Laban, mène à l'échec. C'est clair ? Ils ont fait le diagnostic que cette tentative-là mène à l'échec. Ce diagnostic-là est déjà fait définitivement par Judas et ses frères, à l'origine de notre histoire. Joseph, lui, est celui qui reprend ce rêve-là. C'est clair ? Vous comprenez comment ça va être versé au dossier de son procès. Je voudrais vous rendre attentif à cela. Tout le récit de la Torah, tout le récit historique de la Torah, c'est pour nous expliquer ces deux tentatives-là et nous montrer que celle de Joseph mène à l'échec. Puisque l'explication en gros plan de cela, c'est la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph a tenté de faire ? Il a tenté de transfigurer la civilisation égyptienne. Elle est devenue ce qu'elle est devenue, l'empire le plus totalitaire qui puisse exister, le camp de concentration des Hébreux, et c'est pourquoi il a fallu avoir la sortie d'Égypte comme elle a eu lieu. Et donc, tout le livre de l'Exode, mais tous les cinq livres, sont complices de ce récit pour nous expliquer que la tentative de Joseph, quelle que soit sa légitimité de principe, mène à l'échec. Et que c'est quand Judas prend le relais que la messianité commence. Ça va jusque-là ? C'est bon, tiens. Bon. Mais là, nous sommes tout au début de cette histoire, et par conséquent, le conflit est encore obscur. Il n'est pas éclairé comme je vais essayer de le faire. Bon. Alors, ça nous mène donc au deuxième texte du Midrash, qui est dans le même chapitre, 84, et c'est le paragraphe. Attendez. Le paragraphe du Midrash que je viens de vous citer, c'est le paragraphe 2 de la Mishnah 5. Et là, c'est la Mishnah 6. Quel est le sujet ? Comment Jacob se voit chez Joseph ? Israël se voit chez Judas, mais Jacob se voit chez Joseph. C'est pas jusque-là ? Peut-être que je vais vous ouvrir une petite parenthèse concernant la messianité chrétienne, puisque le nom de Joseph y joue un rôle. Une parenthèse, vraiment parenthèse. Et sinon, vous éclairez à quel point tout cela, ça a travaillé dans l'histoire. Si vous prenez les généalogies, les évangiles d'hommes du Messie des chrétiens, vous savez qu'il y a un problème dont aucun de leurs théologiens n'arrive à se sortir, c'est un mélange de généalogies. J'essaie de vous l'éclairer en lisant simplement, de mémoire, la généalogie de Matthieu, qui s'appelait Matathias avant de se convertir. Vous connaissez, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'un cheveu. Voilà comment Matthieu organise sa généalogie. Le premier chapitre de Matthieu. Il prend les analogies depuis Abraham. Il y a 14 généalogies depuis Abraham jusqu'à David. Et voilà, je vous cite, vous vérifiez dans le texte. Abraham engendra Isaac. Jusque-là, ça va. Isaac engendra Jacob. Très bien. Jacob engendra, dit Matthieu, Judas et ses frères. Vous connaissez ça. Jacob engendra Judas et ses frères. Ça, c'est l'histoire du Judaïs. Puis a fini le premier groupe des 14 premières générations, qui s'arrête à David. Ensuite, encore 14 générations qui vont jusqu'à l'exil de la fin du premier temple. Et après, il y a 14 générations qui mènent au Messie de celui dont on dit dont il est le mari de Marie. Voilà comment ça s'achève, ces générations-là. Un certain Jacob qui engendre un certain Joseph dont on dit qu'il est le mari de Marie. C'est écrit comme ça dans les évangiles. Ça veut dire on tient à donner à ce Messie-là, des chrétiens, comme père terrestre, historique, un certain Joseph, fils d'un certain Jacob. Et qui va être l'antagoniste dans le récit du mythe chrétien, qui va être l'antagoniste de ce fils de Joseph, un certain Judas, comme par hasard. Comprenez ? Ça veut dire le thème historique de la famille des patriarches est repris sous forme mythique, avec option opposée. Alors la première fois, c'est l'histoire. La deuxième fois, c'est le mythe. Et nous sommes, comme vous le savez, anti ce mythe. Pour revenir à notre problème, ça signifie que le christianisme a voulu pousser à la limite ce mythe-là, pousser à la limite la tentative de la messianité de Joseph. Ce que Joseph n'a pas fait, in extremis, il s'est sauvé du danger chrétien avant la lettre. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Il est resté hébreu. Et lorsqu'il a diagnostiqué l'échec de sa tentative, il reçoit ses frères et leur annonce, vous ramenez les ossements. Quand vous repartirez, vous amenez. C'est clair ? Alors que l'identité judéo-chrétienne à sa racine a opté pour devenir Rome. C'est clair ? L'Église catholique, apostolique et romaine. C'est ça qu'ils ont fondé. Vous avez compris le problème ? Voilà, les évangiles ne se cachent pas de ce qu'ils font. Il y a la clé sur la serrure, il y a qu'à donner la clé. Et jusque-là, on nous a raconté l'Ancien Testament à la tentative du Judas-fils. Maintenant, nous fondons le Joséphisme. Mais vraiment, jusqu'à Napoléon, Joséphine. En disant en clair que l'adversaire, le traître de Vaudeville, c'est un certain Judas, comme par hasard. Et ils étaient 12, les apôtres, comme les enfants de Jacob. Vous voyez, c'est cousu de fil rouge. C'est clair. Et ça veut dire que, moi je dis pas à le dire parce que c'est clair, et que les fondateurs du christianisme savaient ce qu'ils faisaient et quel mythe ils racontaient. Et ils ont fait ce qu'ils ont cru. C'est-à-dire cette tentative de tourner l'ennemi par derrière, aller dans Rome et judaïser Rome en robe de jésuite, et bien finalement ils se sont fait avoir par Rome. Et cette tentative-là, de prendre l'uniforme de l'ennemi pour le tromper, pour le vaincre, les rabbins ont interdit. Alors le christianisme s'est fondé dans un anti-sémitisme, le judaïsme. Et vous dites très clairement, je ne sais plus dans lequel des évangélistes, j'ai pas repassé ça depuis des années, mais il y a, dans un jour, je cherche la réponse, je vous l'aurai parce que c'est très intéressant. Alors, on nous raconte qu'il y a un autre Judas, un des frères de Judas, un certain Jude et un certain Judas. Mais alors, le texte dit pas l'Iscariote, c'est-à-dire le Judas le traître, un autre, le converti. Il y a le bon juif, c'est celui qui s'est converti, et puis il y a Judas, le converti. Ça veut dire qu'il nous dit en clair ce qu'il veut faire, et c'est très clair. Qu'est-ce que c'est clair ? Alors, vous voyez, le danger de la tentative Joseph. Et la Torah nous raconte ce danger. Et pendant X temps, il y a une éclipse, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'est pas devenu le pape du pharaon ? Et en fin de compte, Le pape du pharaon dit non, je suis hébreu. Top, Canaan, fille. Et l'exilé. C'est clair? Et dans la première étape, il y a ce danger de culbute dans cet échec. Ce que je voulais dire, je le reprends, c'est tout le récit de la Torah, c'est pour nous faire savoir cela. La tentative de Joseph, quelle que soit sa légitimité, n'est qu'un échec en fin de compte. Et comment ça nourrit le procès de Judas et ses frères contre Joseph à ce niveau-là. Finalement, Joseph va être sauvé. On va lui donner un sursis, plus qu'un sursis, on va lui donner un. De tenter sa chance, si je dis. Et puis, il attente, et en fin de compte, tous ses frères vont le rejoindre, vont s'adjoindre à sa stratégie de messianité, et même avec tous ses frères avec lui, ça mène à l'échec quand même. Les barbares restent des barbares. Grosso modo, ce qu'on nous raconte. Alors, voyez comment intervient le récit des évangiles en disant tout ça, c'est le passé, l'Ancien Testament, nous fondons l'autre messianité, celle du fils de Joseph. Et alors, nous avons dans le collimateur Judas le traître. Voilà, c'est compris comment ça s'installe. Alors, vous revenons à notre Midrash, comment Jacob se voit dans Joseph. Voilà ce que dit le Midrash, et je pense qu'il suffira de le lire. À quelle heure on est arrivé? Elle a eu à l'heure. Bon. Alors la deuxième partie, on la verra dans ce soir, mais ce livre à soi, je vais vous le dire. Et là, Tolot, Yaakov, Yosef. Et là, c'est au niveau de Tolot, ça veut dire l'histoire, les événements. Mais la tsarir kra le memar, ken, ella. Le verset n'avait pas à dire cela, mais Elo Tolot, Yaakov, Reuven. Et continuez, Shimon, Lévi, Sachar. Voici les engendrements de Jacob, Reuven, etc. Et là, maintenant vous demandez à Yosef, qu'est-ce que ça veut dire Joseph? Et là, chez Colmach, Erar, Lazé, Erar, Lazé. Tout ce qui est arrivé à celui-là, Jacob, est arrivé à celui-là, Joseph. Mazé, Melad, Maroul, je vais vous lire au Midrash sans vous donner l'appui d'érudition qu'il y a derrière, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. De même que Jacob aimait Maroul, c'est ainsi, de même, Avzé, Melad, Maroul, de même, Joseph aimait Tiré. On apprend que Jacob est né circoncis, parce qu'il est appelé Ishtam, s'il est Tam, appelez-vous pour Abraham, tout à l'heure, le Tanaï veillé est Tamim, c'est la circoncision. On apprend aussi de Joseph de l'inverse. Mazéimo Akara, de même que la mère de celui-là, Jacob, était empêchée d'avoir d'enfants, je ne vais pas traduire stérile, parce qu'elle en a eu, elle, Akara, c'est-à-dire Rivka, Arzéimo Akara. De même, c'est la mère de Joseph qui était Akara jusqu'à l'enfant, et c'était pas Léa. Là, ici, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est un thème très important. Et que, tout de suite, dès l'histoire d'Abraham, vous verrez dans la fin du dernier verset de la Parasha de Noé, on nous apprend que Sarai était la femme d'Abraham, et tout de suite, il y a un verset pour nous dire, le Vatoui Sarai Akara et l'Avala. Et c'est Sarai qui était, c'est moi qui ajoute, et c'est que, qui était, n'avait pas d'enfant, qui était. Le thème qu'il y a là, il ne pourrait plus de temps, mais quand même, je vais essayer. C'est que, les lignes humaines se développent. Et les lignes de l'échec, les lignes de l'impasse se multiplient. Il n'y a pas de problème de ce thème si spécifique de l'histoire des patriarches hébreux que la matrice qui doit enfanter est n'enfante pas. Partout ailleurs, ça pullule, enfin ça s'enfante. Hein? Et puis voilà que c'est d'après les mères d'Israël qui sont empêchées d'enfanter. Alors je vais essayer de l'exprimer de façon très, très simple. Par l'homme, ça passe pas. On s'occupe pas. Mais là où ça passe, vraiment, alors on empêche de risquer une approximation. Tant qu'il n'y a pas la maturité qu'il faut, pour que l'enfant attendu soit vraiment lui-même, on est empêché. C'est clair? C'est Dieu qui empêche Sarah jusqu'à ce que Sarah puisse avoir une frappe. Avant cela, elle n'aurait qu'une approximation. Alors c'est très dangereux. C'est clair jusque-là? Alors voilà ce que le Midrash dit. C'est la mère de Joseph qui était comme la mère des patriarches. C'est par lui que ça passe. Par elle. Ça va jusque-là. Mazé, de même que la mère a lui, Jacob, enfanté deux, Esaü et Jacob, elle aussi, sa mère de Joseph, Rachel, a enfanté deux, qui sont Joseph et Benjamin. Mazé Bechor, Azé Bechor. De même que l'aîné, c'est Jacob, de même l'aîné, c'est Joseph. Bon, c'est plein de questions, tout ça, mais je vais pas vous le lire. De même que pour Jacob, sa mère, elle a eu des difficultés d'enfantement, De même pour Joseph, sa mère a eu des difficultés de l'enfantement. Mazéachiv, son Eoto, de même que lui, Jacob, son frère, le haï. Avzéachav, son Eoto, de même lui, Joseph, ses frères, le haï. Mazéachiv, Bikesh, le Orgo, de même que Jacob, lui, son frère, a cherché à le tuer. Avzéachav, Bichou, le Orgo, de même, Joseph, lui, ses frères, ont cherché à le tuer. Mazéachav, de même que lui, Jacob, est un berger. Avzéachav, lui aussi, est berger. Etc., etc. Ça va jusque. Ça veut dire que Jacob se voit dans Joseph plus que dans les autres. Alors vous allez lire maintenant dans Rachi à sa manière. Prenez Rachi sur le verset 3. Et Israël a avec Yosef une colbana qui donne Zéphonie au lot. Verset 3, à la page 179. Vous l'avez en bas de la page, la dernière ligne, Ben Zekouni, en bas de la ligne. Hein? La page 179, la dernière ligne, la Rachi. Alors, je traduis, et Israël aima Joseph plus que tous ses fils, qui Ben Zekouni brûle, car il était pour lui un enfant de vieillesse. Voilà le texte de la Torah, Ben Zekouni. Comment on dit ça? C'est comme ça qu'on dit en français un enfant de vieillesse? Il y a un autre terme, oublié. Non, non. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, comment on dit cela? Non, c'est pas le bâton de vieillesse, c'est l'enfant qu'il a eu quand il était vieux. Véa Salé, tourné de Passine, et il a fait une tunique différente des autres. Nous ne rentrons pas dans la définition de Passine. C'est la question dernière. Ben Zekouni, chez Noladlo, le Haed Zignato, que ça veut dire Ben Zekouni, qui lui a été enfanté au temps de sa vieillesse. C'est le chat. Ben Zekouni, vous, l'eau, c'est Jacob. Ben Kelos, mais dans la traduction d'Ben Kelos, il y a Bar Hakim, un fils sage, Ben Hacham. C'est quoi? Ben Kelos traduit Bar Hakim. Vous avez d'ailleurs le texte de Don Kelos ici. À la dernière ligne de Don Kelos, vous avez de l'Israël. Racham Yat Yosef Nicol Banoï, Are Bar Hakim Houle. Bar Hakim traduit Ben Zekouni. Bon, parce qu'on apprend d'autre part que Zaken, ça ne veut pas dire un vieux, ça veut dire un vieillard dans le sens de sage. La Midrash interprète le mot de Zaken, Zé Kana Chochma. Celui-là a acquis la sagesse. Il y a deux sortes de sagesse. Il y a une sagesse qui vient du contenu des connaissances. Il y a une sagesse qui vient de l'âge. Alors c'est cette sagesse qui vient de l'âge qu'on appelle Zikna. Si on voulait dire qu'il est simplement vieux, on dit Seva. Okay? En araméen, Saba, grand-père, ça correspond à Seva, le plus vieux. Okay? Tandis que Zaken, ça veut dire cette vieillesse-là qui donne la sagesse qui vient avec l'expérience de l'âge. Donc vous pouvez être Zaken très jeune. Qui se souvient d'un cas comme ça dans la Mishnah? La barbe, le poil de la barbe. Rabbi? Nahon? Nakhoum l'autre? Ama, Rabbi, Eleazar de Nazaria. Ariani, Kebel, Shizim Shana. Rabbi? Bon. Alors, là, je continue. Ben Zekouni, et ça nous explique pourquoi il est préféré. C'est qu'il était non seulement l'enfant de son expérience de vieillesse, mais c'était un enfant sage. C'était en plus pour son fils, plus que les autres, son élève à lui en tant que Jacob. Et il continue, comme marche la marche. Et Michel d'Aïver, tout ce que Jacob avait appris à l'école de Shem et d'Aïver, Massarlo, il a transmis à Joseph. Bavaracher, autre explication, Jayazi, Ikulin, Shelo, Domé, Lo. Que la zim, c'est la lumière, mais dans une nuance, comment dire la luminosité, comment dire la luminescence, comment dire.